Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. C'est aujourd'hui une première, la première émission d'une série d'émissions qui s'intitule « Et si on parlait des cathares ?» Je suis docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime cette émission avec un intervenant, un invité permanent que l'ensemble du sud-sud-ouest de la France connaît bien, le pasteur Michel Jasse. Cet érudit est passionné par les cathares, cette appellation contemporaine, une appellation contemporaine d'un ensemble de mouvements chrétiens en rupture avec l'Église catholique, qui s'est particulièrement répandue dans le midi de la France entre l'an 1000 et 1244. Bonjour à toi, monsieur le pasteur, bonjour à toi, Michel, et merci bonjour. D'être avec nous pour partager ta passion des cathares.
Oui, bonjour à tout le monde.
J'ai bien dit que tout le monde te connaissait.
Oui, enfin, certains, mais pas.
Alors, avant toute chose, aurais-tu l'amabilité de mieux te présenter, hein, puisqu'on va faire cette émission ensemble, moi un peu le clown blanc, et de nous raconter ton intérêt pour les cathares.
Oui, alors à Radio Alliance Plus, on me connaît, j'anime des cultes de temps en temps, des cultes radio diffusés le dimanche matin, ou alors l'émission Théologie en Liberté, enfin, voilà, en soirée de temps en temps, et puis sur un podcast, on peut retrouver mes émissions. Alors, puis-je encore parler... Bon, j'ai fait plusieurs émissions sur les cathares. Puis-je encore parler des cathares?
On en a fait une ensemble dans mon émission « Votre santé, un trésor » sur le consolamentum.
Oui.
C'est le soin palliatif des cathares.
Peut-on encore en parler? Oui, j'en suis heureux et je ne crois pas qu'il ne s'agit d'une passion marginale, un lobby qui n'aurait pas de sens. Je crois que dans le midi... à deux ou trois siècles de distance, les cathares ont représenté quelque chose d'aussi fort et de théologiquement important que le protestantisme par la suite. Alors, mon intérêt. A priori, je me sens proche des minoritaires, et ça peut-être qu'on pourrait l'expliquer aussi par mon histoire familiale, mes ancêtres du côté Jasse.
Il faut qu'on entretienne une deuxième émission qui sera basée oui. là-dessus.
Donc, oui, oui. Et en fait, du côté Jasse, mes ancêtres ont été décimés par la guerre de 14. Donc en fait, mon père cherchait toujours à savoir s'il avait des cousins éloignés, etc. Mais il était orphelin de la guerre de 14, etc.
Pourquoi ? Parce que dans la guerre de 14, il y a eu des batailles de tranchées, tout ça, mais pas de bombardements de civils
Non, mais s'il était militaire, mon grand-père et ses frères sont morts à la guerre de 14.
Ah, c'est-à-dire toute la fratrie et...
Voilà, mon arrière-grand-mère s'est suicidée quand on lui a appris la mort de ses fils.
Ah, je suis désolé.
Et alors, donc, en fait, mon père me disait toujours, bon, il ne trouvait pas dans les annuaires. Moi, j'ai trouvé maintenant des cousins éloignés, j'ai fait un peu l'arbre généalogique, etc. Et en fait, il trouvait personne de la famille Jasse, hein, de ce côté. Hein, il connaissait du côté de sa mère, les Ardéchois, etc. Mais du côté Jasse, il disait, on est les derniers des Mohicans. Il m'a toujours dit, on est les derniers des Mohicans. Et en fait, moi je, aussi, enfant, j'ai beaucoup jouer aux Indiens, donc je m'intéressais aux minorités persécutées, je me suis intéressé aux groupes minoritaires, les religions minoritaires, les sectes, les chrétiens d'Orient. Je m'intéresse aux chrétiens d'Orient depuis très longtemps, j'ai correspondu avec des chrétiens d'Iran, etc. Voilà, et puis pasteur, en 1985, je rencontre Jean Duvernois, celui qui a découvert et qui a travaillé sur 16 registres de l'Inquisition, qui habitait Toulouse, c'était un grand juriste de Toulouse, mais qui était devenu le grand spécialiste à partir duquel Emmanuel Leroy-Ladurie a écrit Montaillou, village occitan. Donc je le rencontre, enfin, il était mon paroissien.
Oui.
Et en fait, il me fait travailler le catharisme d'un point de vue sociologique. C'est-à-dire qu'il a vu que je m'intéressais beaucoup au protestantisme, je connaissais bien l'histoire de la réforme à Toulouse. C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais il faut essayer de voir si les patronymes dans les villages autour de Toulouse, etc., s'il y a des correspondances ou pas. Voilà, et alors donc, je les découvre, ces cathares, donc je les travaille de façon sociologique, je les trouve finalement, après la sociologie, je les trouve intéressants et proches finalement du protestantisme évangélique par leur ferveur, Oui. Et ma mère était d'origine évangélique, donc ça a fait... Bon, moi, j'étais pasteur de l'église réformée, mais en fait, les cathares ressemblaient un peu à cette spiritualité évangélique très sérieuse, où on prie beaucoup, etc. Et puis, ressemblaient un peu aussi au protestantisme libéral. Mon père était libéral, assez critique, il contestait... Ouais. Parce que les cathares avaient quelque chose d'anticlérical.
C'est bon qu'on puisse dire, oui.
Il mettait en premier la question du mal, comment l'évangile peut répondre au mal.
Alors, je t'interromps parce qu'il y a une question qui me vient à l'esprit tout de suite. C'est un peu le but de l'émission, hein. C'est une émission un peu question. Bon, j'ai cité la date de 1244. Bon.
Monségur.
Voilà. Et bon, admettons que ça s'arrête là. Rien ne s'arrête du jour au lendemain.
Non.
Les cathares ont continué.
Ben oui, parce que l'époque de Montaillou, c'est 14e siècle.
Voilà.
C'est après Monségur.
Voilà, donc moi, ce que je sais... Bon, le catharisme m'intéresse énormément parce que c'est en plus c'est la région, tout ça. Beaucoup vont en Espagne.
Oui.
Hein, donc ça m'intéresse personnellement. Personnellement, au sens personnel de ma personne. Mais le protestantisme et la réforme... Rappelle-moi la date de sortie.
Il y a plusieurs dates. C'est-à-dire que le début de la réforme, c'est 1530.
Voilà,
c'est l'humanisme.
Voilà, 1530.
Qui démarre à Toulouse. Il démarre pas dans les Cévennes, mais il démarre à Toulouse. Et avec des racines plutôt dans le pays autour de Mirepoix.
Voilà.
Et
alors, entre ces deux dates.
Des régions qui sont catholiques aujourd'hui.
Il y a plusieurs siècles.
Oui.
Comment ferais-tu le lien? Mais c'est pas. On y réfléchira. Entre la fin du catharisme du Moyen-Âge, du XIIIe siècle, et le début du protestantisme, ils sont restés, comme on dit en médecine, quiescents, c'est-à-dire présents, mais non visibles.
C'est-à-dire que dans la mémoire orale, ils ont été vraiment écrasés. Les cathares ont été vraiment
écrasés.
Et donc, le catharisme n'existait plus. Mais on trouve des traces. Donc, le dernier registre de l'Inquisition conservé, c'est 1329, les cinq derniers bûchers en dessous de la cité de Carcassonne. Il y a les descriptions, il y a les noms de ces gens qui ont été brûlés, etc. C'est 1329. Mais on a la description d'un registre de l'Inquisition de Carcassonne qui a été perdu, ce registre, mais on a un inventaire qui décrit, c'est au moment où il y a eu une partie des registres de l'Inquisition de Carcassonne qui s'était passée pour aller au couvent des Dominicains de Montpellier.
Oui.
Et puis après, ça a été perdu. Et alors, on a une description de cathares, certainement dans la région de Limoux, en 1422. Donc c'est quand même tard.
Ah, oui, donc.
Et si on dit 1422, puis les premières traces de réforme humaniste, c'est 1530.
Il peut y avoir continuité.
Et on sait qu'à l'époque du début du protestantisme, tout le monde se rappelait des albigeois.
Oui, d'accord.
On s'en rappelait. On disait, surtout,
ça me satisfait.
Pouvoir disait, mais surtout ne faites pas comme les albigeois, vous avez vu jusqu'où ça les a amenés.
Oui.
Et puis les protestants disaient, mais oui, mais mon arrière-grand-mère a été brûlée, mais elle était gentille, on me dit.
Donc, on
dit que théologiquement elle avait tort, et eux ils disaient, donc si c'est leur arrière-grand-mère, ils disaient, non, elle avait raison.
On revient à toi.
Oui. Alors en fait, il y a la question du désamour.
Voilà. La deuxième question qui me préoccupait pour introduire la première émission, c'est alors actuellement, malheureusement, hein, parce que ça fait de très nombreuses années que les cathares m'intéressent, un peu comme toi, hein, un peu comme minorité, et puis une spiritualité, une théologie qui est intéressante. Et actuellement, se crée un désamour pour les cathares et leurs souvenirs. On essaie de faire une autre croisade, mais pas la même, quoi. Une croisade de l'oubli médiatique, académique, scientifique, universitaire. Alors, parle-nous un peu de ce désamour actuel des intellectuels, des soi-disant universitaires pour les cathares.
Je milite contre ce désamour.
Oui, c'est pour ça que je te pose la question.
Peut-être qu'on va gagner. Mais en fait, c'est quand même un mystère. Parce qu'en fait, le premier désamour, il était celui des catholiques traditionnalistes, ceux qui ont persécuté les cathares. Et en fait, là, par exemple, Jean Duvernoy faisait bien la différence entre les catholiques locaux, de l'Aude, de Toulouse, etc., qui, en fait, avaient dans leur propre famille, ils avaient des cathares, et ils étaient pour une coexistence pacifique. Même il y avait, par exemple, c'est Anne Brenon qui l'a travaillé, un moment à Carcassonne, on a eu l'évêque catholique de Carcassonne qui était le cousin germain de l'évêque cathare de Carcassonne.
Ah bon ?
Et on sait que pour des mariages, ils ont été invités tous les deux. On ne sait pas s'ils sont venus, s'ils ont mangé à la même table ou pas, mais en fait, ils étaient dans la même famille. Et ils étaient, mais alors c'est vrai, au moment de la croisade, le clergé catholique qui était en place a été déplacé.
Oui, c'est normal. C'est...
Parce qu'en fait, on disait que le clergé, justement, enfin, bah, par exemple, à la grâce, on a reproché aux bénédictins de la grâce de pactiser avec les albigeois.
Et alors,
ceux qui vont créer le désamour, ce sont les catholiques du nord de la France qui vont être avec l'esprit des croisades.
Oui.
On va lutter contre les croisades. Et alors maintenant, il s'agit d'un autre désamour.
Là, on était dans le passé. Donc
ça, c'était le désamour de droite. De droite, on pourrait dire, ouais. Un peu comme Pierre Belperron. Il y a un livre sur les hérétiques albigeois, etc., qui pendant l'occupation, et qui disait qu'en fait, le refus de la croisade par les Occitans de l'époque, c'était un peu dommage, c'était un peu comme ces résistants qui refusaient le pouvoir allemand. Quoi.
Donc,
Belperron, qui a été un bon historien du catharisme, était allé dans le sens plutôt de désamour. De collaborationniste.
Oui,
quoi.
Oui, oui.
Mais alors maintenant, il s'agit d'un autre désamour plutôt d'extrême gauche, si on veut faire un peu de politique. Et c'est l'université française est souvent d'extrême gauche. L'ambiance freudo-marxiste. Un mélange donc de la psychanalyse, oui, oui. Et puis après la chute du mur, on est un peu moins marxiste, mais en fait, on reste gauchiste. Donc il y a seulement. C'est uniquement en France, trois universitaires, ils sont très peu nombreux, mais ils font beaucoup de bruit, qui sont déconstructionnistes. Donc ce mot déconstruction...
Oui, c'est la mode, on déconstruction.
Ah, on parle toujours de la déconstruction.
Ah, ça peut être intéressant, la déconstruction.
Oui, oui, oui.
En anthropologie,
oui,
en éthologie, on se déconstruit notre manière de penser pour revenir à une neutralité et pour se reconstruire suivant le sujet d'étude.
Mais par exemple, Duvernois pour le catharisme, c'était un déconstructionniste nuancé, modéré. Enfin, il était pour une recherche historique qui déplace un peu le problème, parce qu'il y a eu beaucoup de légendes qui ont été dites à leur sujet, mais on en reparlera.
Et quand on se déconstruit, c'est pas pour s'éliminer. Hein, dans la méthode de déconstruction pour d'études, à l'université, on peut se déconstruire d'une façon. En psychologie, on le fait. On a tous une façon de penser, mais si on veut étudier la psychologie de quelqu'un d'autre, ouais. On est obligé de s'oublier, donc on se déconstruit et on essaie de se construire comme le sujet d'étude.
Oui, oui.
Et si, vous, si on vraiment veut bien sentir une pathologie psychiatrique, on va essayer de penser comme la pathologie. Mais ça ne veut pas dire annihilation ou destruction de sa propre personne.
Voilà. Mais alors moi, je déconstruis les déconstructionnistes qui sont anti-cathares et qui, eux, sont des radicaux.
Ils
sont des ultra, ultra critiques radicaux. Alors il y a, je vais citer les noms, il y a Julien Théry qui a quelques problèmes aujourd'hui avec Lyon 2. Il a enseigné, il était médiéviste.
Et
Lyon 2.
Il y a des problèmes
Ben, il y a eu des problèmes, bon, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais cherchez sur Internet Julien Théry, Lyon 2, vous verrez que... Bon, il animait la radio de Mélenchon.
Ah, ça c'est... Voilà. Animer une radio, c'est toujours dangereux.
Voilà, il a été mis de côté, alors peut-être qu'il va être réhabilité ou pas.
Ouais.
Bon, la deuxième personne, c'est Alessia Trivellone, qui est d'origine italienne et qui est maître de conférences à Montpellier.
Il n'y a pas de problème.
Si, il y a un problème, parce que Alessia Trivellone, elle est à la fois brillante, mais elle dit que les cathares n'ont pas existé, et elle est radicale. Elle est radicale, et quand mon ami Michel Rocobert a voulu répondre avec Philippe Martel, on a organisé une conférence avec d'autres professeurs d'histoire à Montpellier, dans les locaux de Paul Valéry, avec Michel Rocobert qui a écrit énormément de livres sur le catharisme, eh bien, Madame Trivellone a refusé de venir.
Bien.
Bon, ça montre son ouverture d'esprit.
Oui,
et puis le troisième, c'est celui qui est plus modéré. Mais alors, il y a eu cet été et cet automne énormément de publicité pour lui. C'est Arnaud Fossier, qui est, il est professeur à l'université de Bourgogne, Dijon. En fait, ce déconstructionnisme est minoritaire, alors qu'ils disent qu'ils correspondent à la nouvelle vague historienne. C'est pas vrai. Ils sont très minoritaires, ils ne sont plus que trois. Et même, dans un certain sens, les historiens, les médiévistes qui ont travaillé le catharisme dans l'Europe entière, sont assez surpris de voir que c'est en France où on a des gens, ces trois personnes, qui nient le qatharisme et qui refusent les sources. C'est-à-dire qu'ils déconsidèrent totalement les sources qatar.
Parce qu'il y a des sources.
Et ils en parlent. Ils disent, ah non, alors en fait, ils n'en parlent pas. Et alors, dans un contexte où les gens, quand même, aujourd'hui, les gens ne sont pas très théologiens, quoi, aujourd'hui. Il y a une grande sécularisation, les gens ne connaissent rien en religion, donc ils sont impressionnés, ils ne voient que les titres de ces personnes. Alors, ils nient, et ils sont brillants. Arnaud Fossier a des émissions à la radio France Inter, France Culture, très intéressantes. Donc, ils nient pour se montrer courageux, parce qu'ils sont médiévistes, spécialistes, ils se disent spécialistes des cathares, mais en fait, ils n'ont pas travaillé les sujets. Et ils nient, mais sans grand risque, quoi. Hein. Ils se présentent comme scientifiques, à la mode. Et ceux qui ont le pouvoir, alors dans le département de l'Aude, on va en parler, sont impressionnés par ces gens qui vont très loin.
Et par l'Académie. Voilà. Et bien, vous écoutez bien l'émission ici, on parlait des cathares sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM ou en DAB+. Pour cette première émission, comment voit-on les cathares aujourd'hui, avec Michel Jasse, spécialiste du catharisme, et Jacques Jaume, je vous propose une trêve musicale en écoutant le générique de notre nouvelle émission.
Quand le voyait vendel aura, quand le voyait vendel aura, planto sana gallado, quanto sarà gagliato, trova sa fede al piede del foc, trova sa fede al piede del foc, tutto desconsolato. Desconsolado se ne smalato di casa, se ne smalato di casa, te farà men potace.
Vous écoutez Si on parlait des cathares avec Michel Jasse, une émission produite et animée par Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Cher Michel, pourrais-tu nous parler du processus de l'inscription des châteaux que l'on appelait les châteaux cathares au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Ils franchissent une étape importante et sont désormais en phase finale pour y être inscrits. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une affaire.
Alors, la réponse de l'UNESCO est attendue pour cet été. Hein. C'est là où on aura la réponse. Mais voilà, alors donc, ce serait donc comme pour Carré d'Art ici à Nîmes. Ça apporterait un plus par rapport à la
maison carrée.
Moi, j'ai dit Carré d'Art, la maison
carrée.
Carré.
Ouais. On est toujours dans le carré, mais c'est surtout la maison carrée.
Alors, donc, faut-il espérer en faveur de cette inscription, patrimoine mondial de l'UNESCO ? Oui, bien sûr. Mais si c'est pour ne plus parler des cathares, parce que si on change le nom, on n'appelle plus les châteaux cathares, on les appelle forteresses royales, etc.
Alors, les châteaux cathares, il y en a combien ?
Ah ben, moi, je pense que tous les châteaux de l'Aude et de l'Ariège étaient cathares.
Ils étaient cathares.
C'est-à-dire, mais ils n'en ont retenu que 8.
Ah, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, cette inscription, ils ont dit on va miser sur Carcassonne et les autres châteaux qui entourent Carcassonne, dans l'Aude. C'est la limite entre les Pyrénées-Orientales et l'Aude, et puis Montségur qui est en Ariège.
D'accord.
Bon, en fait, donc, si c'est le projet mise sur la disparition du mot cathare, Bon.
Et on va les appeler les forteresses royales.
Oui.
Mais pourquoi spécifiquement reconnaître alors des forteresses royales dans cet endroit ? Il y a une ambivalence quand on a préparé l'émission, qu'on en a parlé. Donc j'étais au courant bien évidemment de cet anti-catharisme universitaire académique. Mais
à cause de ces trois personnes que je dis, qui sont vraiment minoritaires.
Ça commence comme ça, le chiffre 3, tu sais, c'est quand même symboliquement ça. Eh bien, on parlait du château cathare, tout le monde savait de quoi on parlait. Bon, après l'analyse de l'impact du catharisme, ça c'est autre chose. Ça je conçois très bien qu'il y ait des réserves, pas de réserves, comment, pourquoi, il y a l'histoire qu'on a construite, les traditions, etc. Mais ces châteaux, on les connaît parce que leur seigneur était plus ou moins favorable au Qatar.
Oui, oui.
Alors, si on les appelle les châteaux royaux,
ouais.
Ben, je ne vois pas pourquoi on les sélectionnerait à l'UNESCO. Quoi.
Et oui, autant aller au château de la Loire, je crois.
Ben, voilà,
c'est
oui,
mieux.
Je vois pas
c'est moins fatigant, ça. On a moins de cailloux pour monter.
Surtout qu'il y en a qui sont en ruine. Alors, tu m'arrêtes.
Ils sont tous en ruine.
En ruine. Et puis Vert, hein, que je connais particulièrement, oui. et qui m'est proche. Bon, c'est des jolis murs, mais si on enlève le côté... Alors, j'emploie un terme.
Du passé occitan,
voilà.
Quoi.
C'est-à-dire que si on enlève le côté, mais c'est un mauvais terme, mais les auditeurs me comprendraient, romantique du catharisme, bon, j'ai une belle ruine,
oui,
mais
oui.
C'est pas plus.
Voilà.
Pas plus. Donc, il n'y a pas d'intérêt de le mettre en UNESCO.
Alors, oui.
Il y a un intérêt si jamais ce sont des châteaux qui ont renfermé une hérésie de l'époque, cathare, et où des nobles français... Ben, on virait.
Oui,
donc
oui.
Là, ça donne un côté d'étude, un côté de lieu où s'est passé quelque chose.
Oui,
mais si
c'est
pour les appeler forteresses royales, autant ne pas les inscrire à l'UNESCO, quoi.
Voilà, bon, mais enfin, tu m'as posé la question et tu y as très, très bien répondu.
Oui, mais c'est pas moi à répondre.
non, mais c'est...
Est-ce que ça va être reconnu comme les châteaux cathares?
Actuellement, ils veulent enlever la mention de château cathare et de même qu'ils veulent département de l'Aude. Alors, c'est quand même paradoxal, je vais vous dire.
Mais voilà, c'est ça qui est quand même.
L'aspect paradoxal de cette histoire, c'est qu'en fait, tout à l'heure, j'ai parlé de ceux qui ont le désamour contre le catharisme. Le désamour classique, c'était l'extrême droite. Alors, et c'est vrai que dans notre midi, on a une montée politique de l'extrême droite.
Oui, mais je ne suis pas sûr que l'extrême droite à côté actuelle sache ce que c'est que le Qatar. Quoi,
fait, non, mais l'extrême droite dans l'Aude, que je connais, et le catholicisme de l'Aude est quand même très, très pollué par Monseigneur Lefebvre, les disciples
les
de Monseigneur Lefebvre.
Catholiques,
et les traditionnalistes.
Oui,
et qui, eux,
oui.
N'aiment pas du tout les Qatars
oui,
et disent
ça
les
Qatars, oui.
Ce sont des hérétiques, on a bien fait de lutter contre eux, de les brûler, etc. Donc il y a ce courant.
Alors, ça, oui, ça,
on a des gens, d'anciens élus du Rassemblement National qui étaient avant le Front National et qui ont écrit des petits livres contre les Qatars.
Ah, d'accord.
Bon. C'est-à-dire que après, à extrême gauche. Extrême gauche, on a ces déconstructionnistes.
Ouais.
Par exemple, Julien Théry a animé la radio de Mélenchon.
Ouais.
Et alors, eux sont aussi, mais pour d'autres raisons, ils sont pour la déconstruction, ils sont contre, ils reprochent aux Occitans d'être identitaires. Qu'est-ce que c'est identitaire ?
Ouais.
Donc, en fait, ils veulent déconstruire le catharisme par gauchisme.
Oui.
Et alors ceux qui normalement, c'est paradoxal, qui seraient centristes sur les politiques ou Parti Socialiste, le département de l'Aude a été longtemps un des fiefs du Parti Socialiste, eh bien ceux-là, ils sont conseil général de l'Aude et pour se plier à l'UNESCO, ils veulent abandonner les termes cathares.
Oui, mais pourquoi l'UNESCO, qui est indépendant de tous ces mouvements politiques français, veut enlever le mot cathare?
Alors moi je ne sais pas exactement si c'est l'UNESCO ou si c'est le conseil général de l'Aude, je ne le sais pas.
Parce qu'au niveau ça intéresse les intellectuels, nos auditeurs bien évidemment.
Mais les touristes ne descendront pas voir pour voir des châteaux royaux quoi.
Mais le catharisme, quand on va dans les corbières etc, c'est très touristique et on attire le tourisme par des histoires particulières, même par des... Voilà, on ne fait pas du tourisme avec du quotidien.
Oui, en fait, il y a quand même un désir. Je suis un ami du guide conférencier de Montségur, hein, et qui dit qu'effectivement, il y a eu, dans les années 80, énormément de touristes qui sont venus voir les châteaux cathares. Et maintenant, il faudrait faire des travaux, il faudrait recevoir des subventions pour améliorer le petit musée qui est en bas dans le village de Montségur, etc. Donc, ils ont besoin de subventions, ils ont besoin d'une nouvelle publicité.
Mais
si cette publicité, c'est pour voir des châteaux royaux, c'est comme autant aller au château de la Loire. En fait, donc, c'est à la fois par, je crois, le Conseil général de l'Ordre, mais c'est un peu par un peu bêtise, enfin, je ne comprends pas. C'est par crainte de ne pas être à la mode, donc ils veulent suivre le courant déconstructionniste de ces universitaires, et puis le désir de plaire à tout le monde, mais ils se trompent totalement de stratégie. Alors j'espère que ça va changer avant cet été.
Une exposition importante a eu lieu à Toulouse sur les cathares, dénommée Cathares Toulouse dans la Croisade. Elle a rassemblé plus de 210 000 visiteurs. C'était la première grande exposition consacrée à ce sujet en France. Elle a fermé ses portes en janvier 2025.
Oui, c'était sa tenue d'avril 2024 à janvier 2025.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu
plus? Oui, alors la même remarque que pour l'UNESCO. C'est du meilleur. On pourrait l'UNESCO, ça serait avoir un classement à l'UNESCO, ça serait très bien. Et cette expo a été formidable pour les objets. C'est vraiment la première fois qu'il y a eu une grande exposition sur le catharisme dans deux lieux. Il y a eu le musée Saint-Raymond, qui est juste à côté de Saint-Cernin, à Toulouse, et puis les Jacobins. Donc les Dominicains, avec cet immense espace qui a été donné et accordé à cette exposition qui a duré à peu près une année. Et en fait, ça a été magnifique parce qu'il y a eu tout, il y a eu énormément d'objets. Il y a eu la Bible cathare de Lyon, il y a eu les registres de l'Inquisition.
200 000 personnes quand même.
Oui, enfin, les chiffres sont... c'est où 80 000
c'est pas pareil, oui.
Donc 90 000 au musée Saint-Raymond, 120 000 Jacobins. On arrive quand même à des chiffres assez importants.
200 000 personnes qui sont intéressées, ça fait
quand même ça veut dire que le mot Qatar a attiré des foules. Il y a eu énormément de gens qui sont venus. Par contre, ils ont supprimé le livre d'or parce qu'il y avait trop de contestations. Parce que quand on parle des Qatars, qui étaient des contestataires... aussi les gens ils le voient parce que alors voilà c'est que le paradoxe c'est que le meilleur et le pire il y a eu le meilleur c'est les objets qui ont été présentés et formidable des casques de l'époque des épées etc enfin c'était vraiment formidable puis on voyait comment la Toulouse vivait au Moyen-Âge etc bon, c'était vraiment bien mais le pire c'était les commentaires il y avait des panneaux explicatifs qui certains disaient qu'ils ont été faits par Alicia Trivellone une des trois et elle disait que les cathares n'avaient pas existé.
Bon, eh bien cher Michel, merci infiniment pour notre première rencontre qui a donné le ton de notre nouvelle émission sur la régionalisation et qui évoque les cathares. Et si on parlait des cathares, pourrais-tu, avant le générique de fin, nous donner le titre de ton premier livre sur les cathares et ce qu'il abordait? Mais en deux secondes.
Braise cathares.
Bon, mais il faut le lire. Alors moi, je l'ai lu, il faut le lire. Merci.
Et je l'ai mis sur Internet.
Ah bon, mais merci encore infiniment à toi, Michel. Et à très vite pour une nouvelle émission. Et si on parlait des cathares. Et comme on dit en occitan, alors c'est une première pour moi, hein, alors soyez indulgents. Hein. Adieu, Siats, et al kop ken ven. Voilà. C'est mon au revoir d'aujourd'hui. Mais je vais essayer d'améliorer d'émission en émission.